Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine. Afro-Deutsch, Afro-Allemand, c'est le titre de la chanson avec laquelle on débute cette nouvelle édition et c'est aussi l'un de nos sujets cette semaine. Comment vit-on aujourd'hui en Allemagne lorsque on a la peau noire et un passeport allemand, lorsque l'on est à la fois nigérian et berlinois, bavarois et sénégalais? Et puis nous parlerons aussi d'un procès qui a fait date dans l'histoire allemande, celui de IG Farben, une société de produits chimiques qui a notamment développé le cyclone B, ce gaz utilisé par les nazis dans les camps d'extermination comme Auschwitz. C'est Constance Van Kötze au micro. Merci de nous recevoir chez vous.
Live vor Ort im Kinderort, wo Kleinste vorgelesen kriegen, zehnmal sind die Neger rein. Die sterben wie die Fliegen, ein kleiner Wein. Am Ende sind's doch wieder zehn. Spaß muss sein, die Schlafschelein, wer brav war, der da früher rein.
775 ans, ce n'est pas si mal pour une dame, qu'en pensez-vous? Cette dame, c'est Berlin. La capitale allemande fête actuellement son 775e anniversaire. Dans ce cadre, elle organise jusqu'à fin novembre les journées du dialogue interculturel, autrement dit des rencontres sur les thèmes du racisme, de l'intégration ou encore de la discrimination. Parmi les communautés de la capitale qui prennent part à ces manifestations, les Afro-Allemands. Ils sont 500 000 dans tout le pays. À Berlin, ils vivent essentiellement dans deux quartiers, Wedding au nord et Neukölln au sud. Notre correspondante Audrey Parmentier est allée à leur rencontre lors d'une discussion qui portait sur leur représentation dans la vie publique.
J'avais 10 ans, on était en train de fabriquer des animaux avec des châtaignes et j'ai regardé les mains des autres, puis les miennes, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Avant, je n'avais jamais senti aucune différence, rien. J'avais toujours eu l'impression d'être comme les autres.
Julia Grellmann a aujourd'hui 64 ans et hormis cet épisode qu'elle raconte volontiers, cette directrice d'école de musique affirme ne jamais avoir subi de discrimination en Allemagne malgré sa couleur de peau. Mais pour les autres participants à la discussion sur les Afro-Allemands à Berlin, Julia représente une exception. Ulrike Düregger est mère d'une fille métisse.
Le problème, c'est que le racisme se manifeste souvent de manière subtile, à travers des questions, des regards. Berlin a beau être une grande ville multiculturelle, les Noirs se remarquent. Je pense aussi que cela dépend de la personnalité, de ce que l'on dégage. Mais tous les gens de couleur, y compris ma fille, sont confrontés à des discriminations.
En 2005, sa fille, alors âgée de 3 ans, lui dit qu'elle ne veut plus être la seule bronzée à l'école et ailleurs. Ulrike Düregger décide alors de créer un groupe de jeux afro-allemand qu'elle définit elle-même comme un lieu de rencontre mensuel pour les familles biculturelles.
On organise des projets, différentes activités telles que de la danse, du chant, de la musique. Mais on essaie de lutter contre les clichés. Par exemple, on ne propose pas de cours de percussion. Et on choisit toujours des professeurs, des artistes ou des pédagogues noirs. Car sinon, les enfants n'évoluent que dans un monde de blancs. On veut leur donner la possibilité de voir autre chose. Et jusqu'ici, on a eu de très bonnes expériences.
Ce jour-là, c'est Teresa Franz, née au Nigeria et qui vit désormais en Allemagne, qui anime un atelier sur les cheveux afro. La salle est pleine de parents et d'enfants, tous plus attentifs les uns que les autres. L'objectif de l'atelier, comme tous ceux organisés par le groupe de jeu, est de réunir des familles afro-allemandes confrontées aux mêmes problématiques, comme par exemple, ce jour-là, l'entretien et le coiffage des cheveux afro. Mais au-delà de ces rendez-vous, les Afro-Allemands de Berlin souhaitent également se faire entendre dans la vie publique allemande, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, comme l'explique Susanna Kallefeld, porte-parole des Verts au Parlement de Berlin, chargée des questions de participation politique et d'égalité des droits pour les migrants.
Les associations africaines ou afro-allemandes sont très nombreuses. En général, elles réunissent les gens selon leur langue et non selon leur nationalité. Elles font du très bon travail en matière de développement dans les pays d'origine. Le problème, c'est que chaque association travaille dans son coin. Elle ne constitue donc pas de groupe de pression.
Total hétérogène und sehr sehr klein oft.
Or, les Afro-Allemands auraient besoin d'un groupe qui les représente et les défende, car à quelques exceptions près, ils sont actuellement absents des médias ou encore de la vie politique. L'autre souhait qui est ressorti de la discussion, c'est celui de mettre fin au tabou du racisme encore très présent en Allemagne. Ulrike Durega.
Je voudrais des standards sociaux minimum, comme il existe des standards techniques minimum. Cela concerne des mots qui ne doivent plus être prononcés sous peine de sanction. Il faut aussi que l'on puisse nommer le racisme là où il est et qu'il existe des critères pour le définir, qu'on le sanctionne à un niveau institutionnel, pour qu'il ne soit plus uniquement un sentiment personnel.
Un souhait qui pourrait un jour figurer dans la loi antidiscrimination que l'Allemagne n'a adopté qu'en août 2006, sous peine de sanction par le Parlement de Strasbourg.
Augenblicklich verändert Deutschland sich ganz sicherlich. Sicher nicht nur äußerlich, ist plötzlich nicht mehr lächerlich. Offensichtlich Dinge gelegentlich mehr ärgerlich. Bedrohlich bis bedauerlich, doch Farbe eher nebensächlich.
Éclairage sur les Afro-Allemands, un reportage de notre correspondante à Berlin, Audrey Parmentier. Et j'ajoute qu'on peut voir actuellement à Cologne et bientôt à Hambourg une exposition itinérante intitulée Home Story Deutschland et qui présente des biographies d'Afro-Allemands justement. Il y a 4 ans, cette même exposition avait tourné sur le continent africain, notamment au Sénégal et à Madagascar. Le procès Higge Farben, pourquoi l'évoquer maintenant? Parce que cela fait tout juste 60 ans que des témoins des méfaits de cette énorme entreprise ont parlé devant la justice. En 1952, le deuxième procès contre Higge Farben démarrait dans la ville de Francfort, par ailleurs siège social de la société. Higge Farben, c'est l'histoire d'une entreprise fondée en 1925 qui s'est rendue célèbre en produisant notamment des colorants et des pellicules photographiques. Leader mondial dans le domaine des produits chimiques, elle a connu son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale en fournissant à l'industrie de guerre nazie des composants entrant dans la fabrication d'avions, de bombes ou de grenades. En un mot, sans le conflit, Higge Farben n'aurait jamais connu une telle ascension économique. L'une de ses filiales a par ailleurs développé le Cyclone B, substance qui a été utilisée par les nazis pour gazer des milliers de déportés dans les camps d'extermination. Et puis Higge Farben a également profité d'une main-d'œuvre gratuite, ou presque, constituée de prisonniers allemands et étrangers.
And they were working these people to death as part of a program of Vernichtung durch Arbeit.
Les fleurons de l'industrie allemande, comme IG Metall, ont utilisé ces travailleurs forcés jusqu'à ce que mort s'en suive, déclare Benjamin Ferenc, procureur en chef lors du procès de Nuremberg. Un procès qui débute en novembre 1945 dans la ville du même nom et qui doit juger les criminels nazis. Higge Farben fait partie des entreprises qui se retrouvent alors devant la barre de ce tribunal militaire. Mais ses dirigeants s'en sortent plutôt bien, les peines de prison prononcées à leur encontre sont le plus souvent écourtées et ils n'auront aucun mal à intégrer par la suite divers conseils d'administration. En 1952, cependant, un certain Norbert Wolheim, juif et survivant d'Auschwitz, décide de porter plainte contre Higge Farben. Le cartel l'a employé pendant la guerre en tant que soudeur, sans jamais le payer et dans des conditions de travail épouvantables. Norbert Wolheim réclame des dommages et intérêts lors d'un procès civil, cette fois, un procès qui fait sensation en Allemagne et ailleurs, comme le rappelle Wolfgang Benz, directeur du Centre de recherche sur l'antisémitisme.
Le miracle, c'est que le tribunal de Francfort lui a donné raison et a condamné Higge Farben à lui verser 10 000 Deutsche Mark. Bien sûr, Higge Farben a immédiatement fait appel et pour cause. Derrière Norbert Wolheim, il y avait 5 000 autres compagnons d'infortune. C'est aussi pour eux qu'il est allé jusqu'au bout.
Denn hinter Norbert Wolheim standen 5000 Leidensgenossen.
Norbert Wollheim n'assistera pas en personne au déroulement de la procédure et au verdict. Il émigre en effet aux États-Unis dès 1951 et charge son avocat de le représenter. Du côté d'Iggy Farben, on a beau souligner que l'ancien soudeur n'a été ni frappé ni blessé pendant son activité et comble du cynisme qu'il a échappé grâce à son travail aux chambres à gaz, le tribunal de Francfort donne raison à Norbert Wollheim sur tous les points. Iggy Farben est reconnu coupable d'exploitation. C'est la première fois après la guerre qu'une entreprise allemande est condamnée pour avoir employé des travailleurs forcés. Et la justice n'en reste pas là. En deuxième instance, le tribunal de Francfort ordonne à Iggy Farben de verser 30 millions de marks, soit environ 15 millions d'euros, à plusieurs milliers de travailleurs forcés employés par la société pendant la Seconde Guerre mondiale. Norbert Wollheim, lui, meurt à New York en 1998. Un bâtiment commémoratif a été érigé en son honneur à Francfort sur ce qui fut le siège social de Iggy Farben et qui est aujourd'hui le campus de l'université de la ville. Voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.dw.de/français dans la rubrique podcast. Et puis pour vos questions et vos idées, une seule adresse, français@dw.de. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss !